Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui s'inclut lui-même.
Et qui mange des cookies.
Salut Thio, après notre délire de la semaine dernière, on va refaire une émission un peu tranquille parce que c'était assez éprouvant. Prendre les petites voix.
Assez long.
Ouais, assez long aussi, oui. L'enregistrement était très très long, donc on va essayer d'être un peu plus direct et puis peut-être de parler un peu plus de BD au lieu de dire des conneries.
Hein ? Oh, c'est mesquin, on a quand même fait. Non, c'était pas mal.
Ouais, bon. Les publics en jugera ! C'est une émission qui va être consacrée quasiment qu'à du rattrapage pour une raison très simple, c'est qu'on a profité des vacances pour rattraper. Beaucoup de choses qu'on avait ratées, beaucoup de vieilles choses.
Non, non, il y a du neuf.
Il y a un peu du neuf qu'on avait gardé pour cette émission, il y a un neuf.
Du presque neuf, mais pas de chez nous.
Voilà, mais je voudrais qu'on profite de cette nouvelle émission pour faire un petit truc qu'on n'a pas fait jusqu'ici. On va lire un petit peu les commentaires que les gens ont pu laisser sur nous, parce qu'il y en a qui nous ont fait sourire, il y en a qui nous ont fait rire, et puis ça fait plaisir aussi d'entendre qu'on dit du bien de nous. Et donc, nous allons choisir deux commentaires, un sur iTunes et un qui se trouve sur le blog. Bon, alors, il y en a d'autres qui ont été laissés sur les différents forums où je mets la pub, mais c'est vrai que ça devient un peu compliqué de chercher dans tous les sens. Donc, on va déjà se contenter de ces sources d'informations. Nous commençons par un commentaire de Zas Legendary sur le blog qui nous dit « Très bon épisode et ne vous en faites pas, il n'y a jamais trop de Warren Ellis. Pour revenir au délire de l'épisode 10 que vous évoquez à la fin de ce numéro, je n'ai personnellement pas trouvé intéressant. On nous avait assez spammé d'équipe de France dans tous les médias classiques, je m'en serais bien passé dans le podcast. D'autant plus qu'il n'y avait aucun rapport avec le sujet. Je ne suis pas contre les effets de style, le time wrap par exemple, est amusant et utile pour le propos. Bonne continuation. » Bon, soyons francs, Warren Ellis, effectivement, je l'avais dit sur Twitter à quelqu'un, Warren Ellis, tant que ça rentre dans mon budget, j'essaye d'acheter ce qu'il fait, parce que c'est bien. Ça reviendra. Bon, les délires, bah, c'est juste que c'est bien de se faire des délires de temps en temps, qu'on n'a aucune prétention à faire quelque chose de sérieux. Bon, on n'a pas vraiment à se défendre, on en a fait un dans l'émission précédente, on espère que ça aura plu. Si ça n'a pas plu, c'est pas non plus l'essentiel du podcast, ce qui compte c'est plutôt les chroniques et les BD dont on parle. Mais il est vrai que sur le délire sur le foot, on aurait eu une chute un peu mieux chiadée, ça aurait été plus sympa. On a un petit peu fait ça à l'arrache aussi.
Voilà. Un petit peu comme d'habitude.
Ouais, un peu comme d'habitude. Ce qui était drôle, c'était surtout d'imaginer les résultats de l'équipe de France. Avant que ça ait lieu. On n'était pas si mauvais que ça. Bon, sachant que moi non plus, je n'aime pas le foot et que je trouvais ça complètement débile. On continue avec un commentaire sur l'iTunes Store par Pasto. Hein. Un commentaire qui nous a beaucoup fait rire. Surtout, oui. Surtout toi. Très bon podcast, le ton léger et sympathique, humour pré-ado un peu désuet parfois, et les critiques, positives et négatives, peuvent être utiles, surtout concernant les comics américains, domaine où il est difficile de se frayer un chemin. Et donc un grand merci, vas-y, tu peux le dire. Merci.
Pour notre humour ?
Oui.
Petit humour pré-ado désuet.
Mais ça nous touche parce que quelque part... Ça nous rajeunit. Mais quel âge nous donne donc nos auditeurs ?
C'est ça.
C'est voilà. Le côté pré-ado, bah, c'est vrai qu'on n'a pas trop vieilli à ce niveau-là. Et le côté désuet...
Celui-là, il fait plus mal quand même. Celui-là, c'est plus douloureux.
C'est un peu plus douloureux, mais c'est pas grave. Bon, on va essayer de faire... Là, on a des trucs intelligents dans cet épisode, donc on va essayer de faire de l'humour construit et complexe, multi-référencé, et voilà.
Multiculturel.
Multiculturel. Donc, bah, merci à tous pour vos commentaires. Ça nous fait bien plaisir, c'est bien utile. Et ça nous permet en plus de gagner en visibilité. Et ben, bah, on va pouvoir attaquer avec notre presque neuf. Qui est tout seul pour le coup. Et il s'agit de 13 mètres 28 aux éditions Manolo Sanctis. Donc, on a parlé de Manolo Sanctis pour son côté online il y a 15 jours.
Il y a 15 jours.
Donc, c'est une maison d'édition que je trouve très intéressante. Je vais le rappeler parce que je trouve que vraiment ça mange pas de pain. Bon, moi, j'ai découvert sommairement en entendant parler sur Twitter, sur Internet, vaguement, sans m'y intéresser plus que ça. Puis, je suis tombé sur une superbe émission qui s'appelle... Road Trip qui est une très bonne émission qui passe sur la chaîne Gong, que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Tu connais Gong, Thio?
Non.
Non, voilà, qui en gros faisait une interview des gens de chez Manolo Sanctis. J'avais trouvé ça très intéressant. Bon, le principe, de façon... Oui, oui.
J'aurais pu être sauvé par le Gong.
Mais... Ah, bah non, tu n'es pas...
Oh, mais... Ting ! Allez, hop.
C'était préadolescent et désuet, tout ça. Alors oui, désolé Pasto, hein, mais c'est devenu un peu un private joke qui tourne un peu en boucle chez nous. Il n'y a aucun mal à ça, nous avons trouvé ce commentaire très touchant. Oui, donc je disais... Voilà, Manolo Sanctis, donc le principe c'est de proposer des outils pour faire connaître ses bandes dessinées, les publier, les mettre en ligne, créer son réseau de bandes dessinées, de connaissances, rencontrer des auteurs avec qui travailler, avoir des outils qui permettent de mettre ses BD en ligne de façon accessible. Et ensuite, selon les votes des lecteurs, selon les goûts aussi des directeurs de collection de Manolo Sanctis, certains des projets vont pouvoir être édités. Premièrement par Manolo Sanctis, ou bien alors par un autre éditeur qui serait intéressé par le projet. Et à partir de là, il y a un vrai travail d'édition. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le truc clé en main en se disant « Cool, c'est passé sur Internet, on fait aucun boulot et on le met dans un album. » Il y a un vrai travail d'édition avec « Retape-moi cette planche, c'est pas bien. Au niveau de la narration, ce passage-là est pas bien foutu. » etc. Donc, c'est un moyen très moderne, je trouve, d'édition, très adapté. Et en plus, ça s'assure que la bande dessinée qu'on a sur Internet n'est pas exactement la même que la bande dessinée qui va être publiée. Et pour un peu faire fonctionner leurs outils, ils ont fait un projet qui s'appelait 13m28, qui a été lancé par Raphaël B., qui avait lancé en gros un thème principal, les débuts de l'histoire, et qui proposait à tous les auteurs qui venaient derrière d'imaginer des histoires parallèles autour de tout ça, avant de conclure. Et donc on a beaucoup d'auteurs dans 13m28, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le pitch de départ, en gros, on a une bonne... on a une bande de jeunes qui font la teuf, parce qu'il y en a un qui revient d'avoir...
D'avoir fait sa thèse en Allemagne.
D'avoir fait sa thèse en Allemagne, voilà. Et ce qui se passe, c'est que d'un coup, alors qu'ils font la teuf...
Ils réalisent que...
Il y a 13m28 d'eau qui ont poussé, qui sont arrivés, et qu'en plus, il y a des monstres. Le pitch fait légèrement penser à un film catastrophe passé il y a peu de temps. Sauf que on va... Oui, tu... comment il s'appelait ce film? Oh, tu vois ce que je veux dire? Cloverfield. Cloverfield. En gros, Cloverfield, c'est une bande de potes parce qu'il y en a un qui va partir faire un travail à l'étranger. Et d'un coup, il y a un dinosaure qui écrase la ville. Et à partir de là, donc, on a le début qui lance l'intrigue. Et ensuite, plein d'histoires qui se passent en parallèle des actions principales, on va dire. Les styles graphiques sont très variés. La façon de raconter est très variée. L'origine de cette crue n'est pas vraiment expliquée, n'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, confrontés à ces problèmes, déjà les personnages vont évoluer, et aussi comment les auteurs vont s'approprier cette thématique pour raconter quelque chose qui leur appartient. Voilà, je te laisse sans voix.
T'as bien expliqué la chose, mais c'est aussi moi ce qui m'a posé souci, du coup, c'est d'avoir tellement d'auteurs et tellement de dessinateurs différents que on y perd beaucoup en clarté. Et qu'il y a des moments où moi j'étais vraiment paumé pour retrouver les personnages du début.
Oui, savoir qui était qui par rapport aux scènes du début.
C'est ça, parce que du coup on n'a pas. Enfin, il y a un fil conducteur au niveau de l'histoire. Hein, ça,
et on n'a aucune unité graphique.
Mais là, du coup, dans aucune, on est vraiment dans le sens restrictif. Quoi. Il n'y a pas. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a un petit peu gêné dans ce livre. C'est vraiment cette difficulté à le lire.
Ouais. Alors, moi, un truc qui. Oui, il y a aussi eu cette gêne. Bon, alors, ça vient aussi du concept. Hein. Moi, je trouve le concept très intéressant. La façon dont. Le résultat final, très intéressant. Mais c'est un concept qui pose ses propres limites. C'est-à-dire qu'effectivement. On passe du coq à l'âne aussi d'un point de vue de la narration. C'est-à-dire que d'un coup, on a un point de vue sur des personnages, puis d'un coup, on passe à d'autres, mais qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Il n'y a pas de pause.
Ou à des personnages qui n'ont
rien à voir.
On
n'a pas de pause, de moment de... Alors c'est vrai que ça fait un peu maintenant sourire le pendant ce temps. Mais que font donc nos amis à l'autre bout de la ville? Il n'y a pas de retour pour nous dire « Ah, au fait, on vous rappelle que c'est machin, on vous rappelle que c'est l'autre ». C'est assez délicat, même si, manifestement, en tout cas c'est ce qu'explique à la fin, il y a eu un travail d'édition pour essayer de rendre ça cohérent, parce que c'était encore pire.
Donc... Ah non, mais attends, là, un truc quand même, c'est que, même si c'est un petit peu ce qui a coincé avec moi, je me doute bien que pour réussir à prendre presque une, je crois qu'il y a une, plus d'une vingtaine de dessinateurs, tu les prends tous, tu les mets tous ensemble et tu essayes de faire un truc qui est cohérent sur plus de presque 180 pages. Oui,
pour les dessinateurs,
en fait,
pour choisir le nombre de dessinateurs, ils les ont mis les uns au-dessus des autres jusqu'à atteindre 13,28 m. Voilà, c'est comme ça qu'ils les ont sélectionnés. C'était leur technique. C'est d'où le nom de l'histoire, en fait. Je suis pas crédible, c'est ça ? Non, mais arrête avec ces gestes obscènes, mais tu es... Oh, quel humour près à dos désuet, franchement.
Et donc, ouais, non, voilà, ça donc je reviens sur les... Sur je sais pas combien d'auteurs, mais... Mais je me doute bien, voilà, ça a été quand même très très compliqué de
21,
voilà, de mettre tous ces gens-là ensemble et de réussir à faire un truc qui soit, on va dire, ultra cohérent, super carré, parce que chacun a forcément sa patte, chacun sa manière de raconter les choses, et là on est quand même.
Oui, parce qu'on parle du style humoristique au style intimiste, avec du style plus sombre. Enfin, c'est tout y passe. Moi, j'ai adoré certains des dessinateurs. Il y en a un dont je suis tombé amoureux. Malheureusement, j'arrive pas à retrouver son nom. Je vais le retrouver. Damn. Warp. Il s'agit de Matt. Matt, donc, qui a un style qui me fait penser à du Dave McKean. Moi, j'aime beaucoup. Un mélange, ouais, un petit peu de Klimt aussi dans l'idée, si on va dans les classiques. Toi, ça a été qui ton dessinateur préféré ?
Non, je n'aurais pas eu de préféré en fait.
Ah ouais.
Pour moi, enfin, non, il y en a qui m'ont un petit peu plus, on va dire, plus que d'autres.
Ouais.
Mais ouais, tu vois, là, bon, là, en refeuilletant, voilà, je dirais ce style-là en fait.
Ouais, ouais, bien sûr. Tout le monde voit ce que tu veux dire.
Et voilà, exactement. Tu vois, c'est très visuel comme truc. C'est Akali Kouchine.
D'accord.
Mais Daniel Lombion en Guadeloupe.
On a une transition.
Voilà. En fait, qui a un travail, donc je sais pas comment tu le qualifierais, toi.
Il travaille avec en impression du papier buvard.
Ouais.
C'est en gros, on sent que c'est une sorte d'aquarelle et la façon dont le papier bois va créer les dessins, mais il y a un petit trait un peu plus posé, un peu plus ancré derrière. Enfin, c'est très sympa.
Ouais, si tu m'avais demandé de choisir, ouais, je t'aurais dit lui.
Une conclusion que j'ai trouvée aussi très bien, pour le coup. On est un peu perdu tout du long, mais la conclusion de l'histoire. Donc par le même auteur qui a fait le début, hein, qui est revenu derrière après le travail de tout le monde pour essayer de conclure, était très intéressante. Parce qu'on n'a toujours pas d'explication sur ce qui s'est passé. Clairement, bon, on va pas gâcher le suspense de l'histoire. En gros, d'un coup, la crue disparaît. D'un coup, il n'y a plus les monstres aussi. On ne sait pas pourquoi ils étaient là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu quelques pseudo-explications, mais on n'était pas sûr.
Une explication avec un petit jeu à la plage.
Ouais, mais c'est pas sûr, on ne sait pas. Enfin, c'est toujours... Tu vois ce que je veux dire, c'est...
On est bien d'accord.
Voilà, c'est... Même si ça reste un peu plus clair que la fin de Lost, c'est pas non plus...
Arrête, spoil pas, j'ai toujours pas vu. Moi, voilà. Je regarde du début, je suis à la saison 2.
D'accord. Enfin bref, 13,28 m, un projet très intéressant. Ça me donnerait presque envie d'acheter l'autre projet collectif de Manolo Sanctis, et ce n'est pas parce que je suis pervers, qui s'appelle Fantasme, qui est bourré de... En fait, ce sont des histoires érotiques par divers auteurs. Voilà. Et puis il y a d'autres choses qui ont l'air très très bien chez eux, donc il va falloir que je me penche un peu plus chez cet éditeur.
Donc, enfin, rien que pour le principe. PIG 16, ouais.
Ouais. Enfin, rien que pour le principe, moi j'aime beaucoup.
Non, c'est un bon concept.
Voilà, et j'espère qu'ils vont nous sortir plein de choses de qualité.
Donc nous étions en Guadeloupe.
Et nous passons maintenant en
Martinique.
Ouais, non, c'est Guadeloupéen, hein, il me semble. Enfin, bon, on reste dans les Antilles, quoi.
Avec Tibitin.
Kimbered Tibitin.
Kimbered, ça veut dire? Tiens bon, Tibitin.
Alors, comment est-ce qu'on se retrouve avec ce genre de BD ? C'est une BD donc, que ma famille m'a ramenée de Martinique et qui est une BD bien locale. Vas-y, parle, dis-nous.
De quoi ? Tu voilà. Dis quoi ?
Voilà. De quoi ça parle ? Qu'est-ce que c'est ?
Donc, c'est l'histoire de Tibitin. Bon, on va dire comme ça, Tibitin. Donc, qui... Là, du coup, vraiment, j'ai un doute sur le Martinique ou Guadeloupe, mais enfin, bon, peu importe. Aux Antilles, on va dire, tiens, voilà.
Voilà.
C'est le jeune Gavroche des Antilles. Et donc, on vous raconte un petit peu son histoire à lui, comment est-ce qu'il vit là-bas. C'est des fois assez bizarre, assez arbre. Ça fait aussi un peu documentaire. Hein. On vous parle, quand il croise un animal, on va dire, qui est typique du lieu, on vous en parle.
Oui, il y a une planche complète qui en parle.
Sur les grenouilles, les plantes, les trucs énormes, la rose de porcelaine, les matoutous, les perroquets, enfin tout ça.
Le côté un peu touristique, là, pour le coup.
C'est ça. Enfin, graphiquement, ça m'a pas enthousiasmé.
Moi, j'aime bien graphiquement, même si je suis pas sûr que ce soit le genre d'histoire qui colle le mieux.
Après, au niveau récit, ça m'a fait beaucoup moins rêver, déjà.
Ouais, bah moi, niveau récit, ce qui m'a semblé bizarre, vraiment assez étonnant, c'est que tu as un titre à chaque page, genre ce sont des gags en une planche.
Sauf que ça suit.
Sauf que ça suit, voilà, ouais. C'était assez bizarre à ce niveau-là. C'est une BD, donc c'est une curiosité. Je voulais qu'on en parle parce que j'aime bien qu'on parle un peu de tout. Moi, je trouve que graphiquement, bah voilà, c'est assez réussi en fin de compte dans le genre BD humoristique. Maintenant, c'est peut-être scénaristiquement que c'est peut-être un peu trop local. C'est peut-être un peu trop antillais et que nous, pauvres gens de métropole, ne pouvons pas en apprécier toutes les subtilités. Je sais pas. C'est peut-être le cul entre deux chaises, quoi, comme tous ces produits locaux que seuls les locaux peuvent comprendre, mais qui veulent vendre aux touristes. Mmh. Moi, je vois ça pour la Corse.
Mais je vais te dire, voilà, du coup, ça me fait beaucoup penser à la Corse.
Ouais, il y a plein de trucs locaux que seuls les locaux peuvent comprendre, mais qui essayent de vendre aux touristes en disant « Regardez, c'est génial !» Et le touriste, il comprend rien du tout à l'humour, et les Corses, ils sont morts de rien. Voilà. Kimberet Tibitin. L'auteur, son nom, c'est...
C'est pas.
Ah, comment ça y a pas
écrit. C'est Jean-Michel Renaud.
Jean-Michel Renaud, voilà.
Les tribulations de Tibitin, le petit antillais malin.
C'était le tome 3.
C'était le tome 3.
C'est peut-être pour ça que t'as sélection... pas apprécié, t'as raté le début.
C'est ça, une sélection de RFO.
Qui n'existe plus d'ailleurs. C'est France O maintenant.
C'est du lit.
Ouais, je crois bien.
Et voilà, RFO.
Et oui, tu allais dire quelque chose ?
Ben non, parce que comme tu m'as coupé, j'ai oublié. Tu sais, mémoire de poisson rouge. Hein.
Ouais, bon, bah tant pis. Nous passons à la suite et poursuivons notre rattrapage en parlant des tomes 1 et 2. De la série Échecs et Automates. Nous parlerons du tome 3 plus tard, il faut qu'on finisse nos courses.
C'est ça.
Alors, Échecs et Automates est une série de Philippe Segard et Arnaud Quéré. Philippe Segard au scénario, Arnaud Quéré au dessin et à la couleur. C'est une série très 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 étrange. C'est sorti chez Carabas.
Alors le premier tome a eu quand même un prix à Angoulême.
Oui.
Ça remonte à bon, quelques années, hein, d'accord.
Voilà.
Mais il a eu un prix à Angoulême, je ne sais plus lequel.
S'il est peut-être Les Essentiels, déjà.
Je crois.
Parce que maintenant, Angoulême, c'est Les Essentiels. Hein. Ils te font juste une sélection de BD sans dire prix du dessin, prix du machin chose, etc. Là, ça fait quelques années déjà.
Ouais, pff, là, j'ai voilà. Plus. Enfin, il a été... Voilà. Hein. Il y était.
Voilà. L'histoire, on suit un enfant un peu difforme qui vient de naître et qui est récupéré par un vieillard qui est chargé apparemment dans un monde post-apocalyptique qui ressemble à Venise où il n'y a plus d'eau.
D'organiser le carnaval.
Ouais, en réparant toutes les machines parce que les touristes vont venir.
Et parce qu'en fait, c'est que des automates qui font fonctionner la ville.
Voilà. Et on suit ça, et puis 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 il y a la chute.
Ça, c'était le tome 1.
Voilà. C'est pas mal résumé ?
C'est pas mal résumé. Bon, je sens quand même qu'il y a une sorte de t'es un peu incontentieux avec... t'as pas enthousiasmé le truc, là.
Clairement, la chute est très bonne. L'intrigue de départ est très réussie. Et j'ai trouvé tout le milieu, mais trop contemplatif, trop... On a du mal à avancer. J'ai en plus eu une petite difficulté avec les dessins. Alors, autant tout ce qui est décor, tout ce qui est architecture, les plongées, les contre-plongées... j'ai trouvé ça superbe. Et autant, pour tout ce qui était anatomie, il y a eu parfois des approximations anatomiques qui m'ont un peu fait mal aux yeux. Mais bon, ça, c'est une question de goût. Ce qu'on ne peut nier, c'est que les couleurs sont superbes, pour donner encore de la qualité. Es-tu d'accord avec moi, avec toutes ces affirmations pas forcément gentilles?
Je suis d'accord avec certaines. Sur moi, je trouve que le scénario du premier était très bien. La chute est excellente.
Oui, je suis d'accord.
Moi, je veux dire, j'aurais même pensé qu'ils auraient pu s'arrêter au tome 1.
Tout à fait.
Ah, toi aussi. Bah, tu vois, on a un point positif. On est ensemble là-dessus. Après, tout le long de l'histoire, moi, je l'ai trouvé pas mal. Dans le sens où, justement, c'est peut-être contemplatif, mais c'est ce qui crée petit à petit, justement, la rupture avec la chute. Quoi. Ça fait, pour moi, ça fait justement, c'est un peu dans l'absurde. Quoi. Et là, c'est.
Ouais. Je sais pas, je trouve que ça tirait un peu trop dans la longueur. En fait, il se passe pas assez de choses. Voilà, c'est l'impression que j'ai eue.
C'est clair, c'est pas d'action, quoi.
Oui, non, mais que, en gros, ça aurait pu être raconté en moins de pages. La même chose aurait pu être racontée, selon moi, aussi efficacement en moins de pages. On a l'impression qu'en fait, tu sais, c'est un peu ces problèmes quand on est obligé de travailler sur un certain format. C'est une histoire qui aurait très bien tenu dans un comic de 22 pages, en gros, entre guillemets, mais que dans le format européen de 40-44 pages, c'est allé un peu trop pour le coup.
C'est possible.
J'ai l'impression qu'il y a eu un problème de format, selon moi.
Bon, ça c'était pour le tome 1. Maintenant, arrivons au tome 2. Et je crois que c'est là que le bas blesse.
Alors bon, déjà, grande difficulté. Comment expliquer le tome 2 sans raconter la chute du tome 1 ? Alors,
Nous continuons à suivre l'histoire du petit garçon.
Oui, effectivement.
Tout simplement.
Oui, on peut dire ça.
On continue à suivre l'histoire du petit garçon qui a grandi et on se retrouve dans un monde... Alors, bon, là, maintenant, du coup, c'est moi qui suis totalement un peu hermétique. C'est qu'un monde qui est un peu qui est invraisemblable. Je pense que c'est voulu. On reste géré par rapport au premier dans le thème de l'absurde. Mais là, devient vraiment très, très, très absurde. Avec des paradoxes un peu dans tous les sens.
De quel ordre ?
Et pour ceux qui ont vu Inception, c'est par exemple l'escalier, le paradoxe de l'escalier. On a le même avec les égouts.
Oui.
Parce que quand on tombe dans des égouts, on ne peut pas revenir au début plus haut que de là où on est parti.
Oui.
Voilà. Enfin bon, ça c'était. Et après, voilà, c'est plein de trucs comme ça. Et puis l'histoire, je crois que voilà.
Alors pour ceux qui n'ont pas vu Inception, le paradoxe de l'escalier, c'est une figure qui a été représentée par Escher et très connue, c'est l'escalier sans fin. C'était la minute culturelle.
Non, là vraiment, moi je pense que. Alors je sais pas combien. Je sais qu'il y a 3 tomes. Je sais pas s'ils avaient prévu les 3 tomes dès le début ou s'il n'y en avait qu'un et qu'ensuite, vu le succès, ils ont dit on va en rajouter parce qu'il y avait la possibilité de continuer l'histoire. Mais là, moi, ce tome 2, ça m'a. Voilà. Les dessins sont toujours aussi. Les décors, tout ce qui est ville, tout ça, ça pète, c'est trop joli. L'anatomie des gens est toujours aussi particulière, mais peut-être qu'on aura une explication dans le tome 3 pour ça. Je suis pas certain.
Oui, je suis pas certain. Je pense que là, c'est un peu une faiblesse du dessinateur.
Non, je pense quand même qu'il l'a fait exprès.
Moi, je pense que c'est peut-être. On peut pas demander à un dessinateur d'être bon pour tout faire, et je pense que c'est une de ses faiblesses. Voilà.
Faire des bicéphales.
Ça c'est volontaire.
Ah, voilà, d'accord.
Oui, non, ça... non, moi je parlais de l'anatomie. Genre, parfois il y a des raccourcis sur les bras, mais tu te dis, mais comment il fait pour mettre son bras comme ça ? Il a une articulation que je connais pas. Enfin, voilà, c'est. De l'anatomie, quoi.
Ouais, Moi, c'est surtout d'un point de vue scénaristique, le tome 2 m'a vraiment bof.
On est clairement, on s'ennuie moins, entre guillemets, que dans le premier, parce qu'il y a de l'action. C'est de la poursuite tout du long, en fin de compte.
Oui.
C'est de la poursuite tout du long. On a donc le héros avec une jeune femme qui sont poursuivis tout du long par le père qui veut les récupérer, en gros. On a aussi une chute à la fin, mais qui, pour le coup, tombe comme un cheveu sur la soupe, je trouve. Elle est un peu nulle, la chute, là, pour le coup, du tome 2.
Ah, Louis, non, là...
Voilà. Comme tu le dis, on a l'impression que ça a été continué un peu... Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le tome 3 va faire qu'on va se rendre compte, en revenant sur le tome 2, qu'en fait, c'était super génial et qu'on n'a rien compris. J'aimerais bien. Parce que, qu'il y ait une conclusion qui fasse qu'on ait vraiment un cycle bien construit du début à la fin, du tome 1 au tome 3.
Nous allons passer à la suite.
Spirou.
On va passer sur un échec.
Spirou, tome 41, La vallée des bannis, par Tom et Jean-Ry. Chez Dupuis. Pour info, oui, échec automate, chaque tome coûte, bien sûr, je ne l'ai pas noté, je crois que c'est dans les... Et voilà, je suis tombé sur le seul dont j'avais oublié de noter le prix. Ça doit être dans les 13 euros, on va dire. Le Spirou, lui, coûte 9,95 €.
Donc, Spirou et Fantasio vont dans un lointain pays d'Asie avec une grande montagne pour retrouver la vallée des bannis et retrouver donc deux aventuriers français qui ont réussi à trouver cette fameuse vallée perdue et se retrouvent donc avec plein de créatures, de monstres totalement bizarres, particuliers. Mais pour les aider, ils trouvent un fidèle carnet qui a été donc fait par un des explorateurs qui leur explique un petit peu justement les soucis qu'ils pourront rencontrer au cours de leur voyage.
J'ai trouvé ce tome très palombien, c'est-à-dire que on a cette faune et cette flore qui font penser à tout ce qu'avait pu inventer comme animaux bizarres Franquin. Et l'inspiration est très bonne, parce qu'effectivement, tous les animaux et toutes les plantes sont très drôles, je trouve. C'est complètement débile, mais tout en étant super dangereux. Petite note, quand même, c'est censé être la suite du tome précédent, La Frousse aux Trousses. Oui.
J'ai dû rater la suite, alors...
C'est la suite directe, sauf qu'en fait... on peut très très bien ne pas se souvenir de La Frousse aux Trousses et le lire très très bien. Il n'y a aucun souci, franchement. À la fin de La Frousse aux Trousses, ils atterrissent dans ce truc et voilà. Ça te raconte comment ils arrivent dans la vallée des bannis, le premier. C'est tout. Oui, je t'assure. Tu veux faire une vérif time warp ? Tu y tiens ?
Non, parce qu'en fait...
Tiens.
Mais parce qu'ils étaient déjà dans l'expédition dans La Frousse aux Trousses.
Ouais.
soit pour la vallée des Bannis.
Ouais.
Ah oui, voilà, non, c'est le seul lien que je voyais, mais
il y en a pas. C'est tout.
Ok, c'est bon, c'est bon.
Voilà.
De l'expédition Maginot-Siegfried.
Voilà.
Ok.
Donc, on est dans, pour moi, là, un peu la grande époque Tom et Jeanry. Hein. Le dessin est super, vraiment très sympa, de très bonnes trouvailles, un humour omniprésent sans que ça gâche pour autant le côté aventuresque. En plus, avec Fantasio qui devient. Qui se fait piquer par un moustique qui le rend méchant, et il essaye de tuer Spirou tout du long, ça crée des scènes assez magistrales. On pourrait peut-être. Ouais, la chute est sympathique. Disons que c'est un petit peu un Deus Ex Machina à la fin. Mais ça reste assez cool. Je sais pas. Voilà. Que dire de plus ?
Non, pas grand chose de plus. Voilà, c'est sympathique, c'est drôle. On passe du bon temps avec Spirou et Fantasio.
Voilà. Mais le prochain tome, ce sera.
Là, on va pas être dans la qualité. Spirou à Moscou.
Ouais, je m'en souviens plus de celui-là.
Celui-là, j'en ai un petit souvenir un peu plus récent et.
Ouais. On en parlera dans une prochaine émission, car nous attaquons maintenant à quelque chose de bien plus ancien.
Et là, on peut presque se prosterner.
Oui, car en plus, on n'a même pas eu le temps d'en parler avant l'émission, donc ouais. On va avoir un peu les approches. Valérian et l'or, Lynn, l'intégrale, volume 4.
Avec donc une histoire donc, qui suit donc, entre Métro Châtelet et Brooklyn Station. Et ensuite, donc, les spectres d'Inverloch et les foudres d'Ipsis.
Pour le coup, on a quatre
tomes qui suivent. Hein, oui. Mais on va dire que les deux premiers sont vraiment quand même très...
très proches, et les deux derniers aussi.
Yes.
Alors, on va pas revenir, on va y revenir, mais très rapidement, sur la superbe édition de cette intégrale. Pour le moment, c'est le dernier tome de l'intégrale qui est paru. J'aimerais bien que la suite arrive. On a toujours une superbe introduction de Stan Barrett, qui nous remet un peu dans le contexte. Même si pour le coup, on n'a pas besoin d'être dans le contexte pour apprécier la qualité de ces épisodes.
Ouais, mais ça donne quand même une bonne lumière sur le travail de Christin, de Mézières. Oui. Et voilà, moi je suis en train de me dire, mais comment ai-je pu passer à côté de ça avant ? Parce que c'est intemporel.
Oui, oui. Si, quand ils vont vers ce nouveau musée très futuriste, novateur, qui est le musée Beaubourg. Là, on remet un peu dans le contexte.
Tu le remets dans le contexte, mais...
Mais comme de toute façon, c'est une histoire de voyage dans le temps, ça pourrait.
Et puis voilà, moi je trouve que vraiment toutes les histoires sont vraiment... C'est intemporel au niveau des idées qui sont données, des développements au niveau de la société, de la sociologie, les rapports entre les pays. Mais c'est c'est énorme.
Alors que raconte cet homme, Métro Châtelet.
Métro Châtelet. Métro Châtelet et Brooklyn Station. Donc, on a Laureline qui est en mission donc, très, 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 très lointain dans la galaxie pour trouver justement. Donc, il y a eu un problème sur une planète. Donc, elle essaie de retrouver, on va dire, voilà, il y a des sortes d'anomalies qui se produisent. Donc, elle est envoyée en mission.
Anomalie temporelle. Ouais.
Elle est envoyée en mission par Galaxy City. Et pendant ce temps, donc, Valérian, lui, est en mission sur Terre dans les années 80. Et là aussi, il y a des apparitions donc, qui sont des grosses anomalies temporelles avec des monstres qui apparaissent.
En gros, Valérian doit empêcher les anomalies temporelles, tandis que Laureline doit en trouver l'origine.
C'est parfaitement vrai. Voilà.
Donc, Valérian fait le bourrin et Laureline fait l'enquête. Oui, on est dedans. Hein.
Valérian fait le joli cœur et...
Oui, aussi. Oui, car il y a eu une petite idée très sympathique. Là, clairement, on peut le dire. Valérian et Laureline sont ensemble. Tu en doutais la fois précédente.
Non, là, ils sont clairement. Oui, mais ils sont ensemble. Mais ouais. J'ai l'impression qu'ils sont très libres quand même.
Disons que, surtout Valérian, en fait.
Oui. Oui. c'est ça. C'est peut-être plus un truc d'homme.
Oui, voilà. En gros, ils ont un moyen de communiquer en rentrant dans une sorte de transe qui leur permet de communiquer à distance et de s'envoyer des souvenirs. Et Laureline fait un peu la gueule à Valérian, qui est obligé, franchement, le pauvre, pour mener sa mission, de draguer. Même si, en fait, il a commencé à draguer avant de savoir que ça pouvait servir sa mission.
C'est ça. Il a commencé à il s'est laissé un peu draguer avant de savoir qu'elle avait un rapport avec le truc.
En fait, c'est la fille qui l'a dragué pour apprendre des infos sur lui. Et quand on lui a appris que la fille avait fait ça, il s'est dit que lui aussi allait continuer à la draguer pour avoir des infos sur elle.
Quel talent. Quel talent, ce James Bond.
Oui, autant dire que Laureline n'apprécie pas trop. On a un nouveau personnage que j'apprécie beaucoup.
Albert,
le contact sur la Terre des années 80. Un bon vivant sympathique, intellectuel, adepte des vieilles méthodes, les livres, les contacts et les potes avec qui on fait des bonnes bouffes pour avoir des informations.
C'est ça.
Une histoire très sympathique, moi j'ai trouvé, et puis en plus, voilà, qui nous ramène sur Terre. Ce qui est sur Terre et aussi sur le but principal, ce sont quand même des agents spatio-temporels, et que, autant dire que dans les tomes précédents, le spatio y était, mais alors le temporel, il n'y avait pas grand-chose. Hein.
Là, t'en as pour ton argent, quoi. Hein.
Oui, là, il y en a pour l'argent.
Parce que quand tu prends les deux dernières histoires...
Les deux dernières histoires, oui.
Les spectres d'Inverloch et les foudres d'Ipsis. Mm-hmm. Donc Ipsis, c'est une planète qui n'arrête pas de se déplacer. Donc, il n'a jamais de position fixe dans l'univers, parce qu'elle se balade d'une galaxie à une autre. Et visiblement, Ipsis a un petit souci, c'est que. Enfin, Ipsis est en train, on va dire, de justement être la source des anomalies, de certaines anomalies, on va dire, rencontrées à Galaxy City, qui est donc justement la problématique donc de ces deux tomes suivants.
Deux tomes qui vont résoudre un problème soulevé dans un tome précédent du début de Valérian, où en gros on nous explique qu'il y a eu la fin du monde,
fin du monde sur la Terre.
La fin du monde, ouais, un gros cataclysme sur la Terre.
En 1986.
Et qui avait créé un gros paradoxe, c'est que s'il y avait ce cataclysme-là, Galaxy City ne pouvait pas exister.
Non, parce que les hommes avaient cessé d'exister eux-mêmes.
Voilà. Et ils s'amusent à essayer de nous trouver comment résoudre ce paradoxe a posteriori.
Et là,
ça fait un peu mal au crâne.
Les foudres d'Ipsis, à la fin.
Oui.
Là, il y a de l'implication.
Il y a de l'implication. On a le point de vue des auteurs sur la religion, de façon assez franche.
Ah, là, on ne peut pas dire autre chose.
On a le point de vue sur ce conflit entre science et religion. Franchement, voilà, c'est un tome 4 exceptionnel. C'est, en gros, ça fait partie des meilleurs épisodes dans mon souvenir de Valérian et Laureline. Série qui a changé de nom en cours de route, hein, rappelons-le. Elle s'appelait Valérian au début. Hein. Puis se sont rendu compte que Laureline était quand même un des personnages un peu importants de la série.
Oui, là, c'est clair, quand même.
Oui, c'est clair. Voilà.
Avec les Shingus.
Oui, qui reviennent pour faire des négociations. Bref, c'est fortement recommandé. J'espère qu'on aura bientôt la suite. Parce que sinon, je vais peut-être devoir craquer pour acheter la suite en tome individuel. Mais j'aime tellement ces intros.
C'est dommage, parce que vraiment, avec les présentations qu'il y a sur ces intégrales, c'est...
C'est une très belle valeur ajoutée.
Ouais, tout à fait.
Donc, le Valérian et Laureline, intégrale tome 4, qui coûte 23€ chez Darko Éditeur.
Et nous passons donc à la suite, à Ikigami. Préavis de mort, de Motoro Mase.
Mm-hmm. Et
Chez Kaze.
C'est du manga. Alors, j'ai fait quelque chose de très fort. Je me suis lancé dans un nouveau manga. Sur les conseils du site sympathique Bullet Onomatopée, dont je fais la pub pour le coup.
99 tomes plus tard, nous aurons la fin.
Non. Je crois que ça y a une fin.
À quel tome ?
Oui, mais de toute façon, c'est pas grave. On va y venir. Je me suis dit, c'est vrai que je lisais pas assez de manga. Pour le coup, Thio non plus.
Tout à fait.
Donc j'ai décidé de me lancer dans une œuvre et on m'a fortement recommandé cette Ikigami, qui est très sympathique. Ikigami, donc, le concept de base, nous sommes dans une société
japonaise, qui, pour que tout le monde travaille toujours dans l'intérêt de la société, sur 1000 enfants, tous les enfants subissent, on va dire, à des vaccins, et dans le vaccin, sur 1000 enfants, je crois qu'il n'y en a que 3 ou 10.
Oui, ou 1, je crois même.
Un sur 1000, c'est ça. Un enfant sur 1000, donc, reçoit un virus mortel qui le tuera à un moment de sa vie.
Entre 18 et 24 ans.
Ouais.
Voilà.
Et donc, l'Ikigami, c'est donc, justement, il y a un service qui est chargé d'aller donner 24 heures avant donc, la mort de la personne son préavis de mort. C'est-à-dire, voilà, il vous reste 24 heures à vivre.
Faites-vous plaisir. Réglez vos problèmes.
Mettez-vous au clair. Enfin, réglez vos problèmes, non, parce que justement, ils veulent qu'on reste quand même dans la loi.
Oui, enfin, réglez vos problèmes. Mettez-vous au clair avec vous-même.
Et donc là, du coup, on va justement voir. Donc, bon, ça, là, c'est le début. Donc, on présente vraiment tout le système. Il y a des passages justement où on va vous dire donc, comment fonctionne le vaccin, comment fonctionne justement, comment sont tirés sur les seringues.
C'est assez bien construit. En fait, faut savoir que pour ceux qui ne le savent pas, les mangas qu'on a en France sont des recueils qui contiennent plusieurs histoires, un peu comme les recueils de comics. Hein. Là, en gros, on a 6 parties et on a deux histoires en 3 parties qui sont assez complètes. Quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, moi, c'est qu'on arrive à la fin du volume. On n'a pas à se dire « Oh, la suite est dans le volume suivant !» Un peu comme on a sur les City Hunter, où on a des histoires coupées au milieu.
Pour ne pas les citer.
Voilà. Et on suit donc, en parallèle, les personnes, enfin la personne qui va recevoir l'ikigami, sans trop savoir au début lequel des personnages qu'on nous présente va le recevoir, même si on peut un peu se faire une idée, mais je pense que c'est parce que c'est les premiers tomes et qu'il ne fait pas trop de feintes pour le moment. Et le fonctionnaire, un des fonctionnaires qui est chargé de les remettre et qui se pose des questions. Le fait qu'il se pose des questions nous permet d'apprendre comment fonctionne le système. Et je pense qu'on va arriver bientôt à un moment ou à un autre, et enfin j'espère dans l'intérêt de la série, qu'il va se poser suffisamment de questions pour remettre le système en question. Voilà. Ça, dans l'intérêt de la série.
Je dirais c'est quand même, ce serait la suite logique.
Oui.
Parce que bon, on se retrouve quand même un peu dans un monde de 1984 quoi. C'est un peu totalitaire quand même. Hein.
Et c'est très bien présenté. On comprend l'intérêt de ce système d'un point de vue purement. Comment dire ? D'un point de vue moral, on ne peut pas l'accepter. Mais d'un point de vue purement gestionnaire, ça marche. C'est ce qu'on nous dit aussi.
C'est ça. C'est que du coup, les personnes sont totalement dans la société, évitent justement de transgresser les règles, parce qu'ils savent qu'ils ont... Enfin, c'est une chance de pouvoir continuer à être dans cette société.
Voilà. Les dessins. Donc, on est dans du seinen, donc du manga pour grand, on va dire. Les dessins sont assez sympathiques. Moi, je trouve que parfois, il y a des visages qui sont assez particuliers. Il y a des côtés assez sombres, parfois, qui collent bien au thème, tout en restant assez clair et froid.
Non, je suis d'accord avec toi.
Voilà. Et parfois, des dessins où l'ancrage change. Je ne sais pas si tu as remarqué. On passe d'un coup à un ancrage beaucoup plus violent, beaucoup plus fort, pour montrer une tension, pour insister sur certaines scènes, et c'est un usage très intelligent.
J'ai l'impression que tu as une sorte de phénomène, un phénomène de flou artistique.
Oui.
Dès qu'on passe dans les scènes de violence, on va avoir une sorte de flou, peut-être, enfin, voilà, voilà, on va aller de fou, mais t'as pris, peut-être justement pour cacher la violence qui n'existe pas dans cette société-là, qui n'existe que à cause de l'ikigami.
C'est une analyse très intéressante.
Ouais, là, je me suis vrillé le cerveau, je vais m'arrêter.
Ouais, non, mais tu ne vas pas t'arrêter. Car après avoir dit du bien de cette série, que je vais continuer à suivre, parce que voilà, je trouve ça très sympathique quand même, et que j'ai bien envie de savoir comment ça va se passer, et qu'on en est actuellement, je crois, au tome 7 en France, et qu'on continue à m'en dire du bien. Donc, voilà. Et puisqu'on parle de se vriller le cerveau...
Et là, c'est vraiment un vrai vrillage de tête.
Déjà, on peut commencer par dire, nous allons parler d'un ouvrage aux éditions Vuibert.
Déjà, là, on se dit, mais ils font de la BD ?
Vuibert ? Mais Vuibert, ce ne sont pas le précis d'anatomie générale, ce n'est pas ce genre d'ouvrage-là.
J'aurais pensé à ceci, le truc médical, tu vois.
Ouais. Eh bien, ils nous ont sorti une BD qui s'appelle Logicomics, et qui est un gros pavé super sympa.
Voilà.
Logicomics nous suit l'histoire de la recherche des fondements de la logique.
C'est ça.
Wow, c'est complexe. Hein.
Avec donc justement tous les mathématiciens, philosophes, personnes qui ont justement essayé de comprendre la logique.
Qui étaient en fait à la limite entre mathématiciens et philosophes.
Et philosophes.
Et qui ont créé cette science un petit peu hybride qu'est la logique.
Parce que est-ce que c'est la logique qui crée les mathématiques ou les mathématiques qui ont créé...
La logique. Et puis qu'est-ce que la logique ?
Voilà, et là c'est...
Déjà on vous a perdu là tous. Hein ? Revenez, on va essayer d'expliquer des trucs plus sympas.
Alors donc l'histoire en fait en elle-même, bon, c'est...
Les auteurs, oui parce qu'alors il y a de la mise en abîme hein, dans tous les sens.
Je pense que ce serait un très très bon bouquin à étudier en dessinée. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Donc c'est un groupe... De dessinateurs, de scénaristes...
De mathématiciens, de philosophes...
Grecs, dans l'histoire, je parle.
Oui.
Dans l'histoire.
D'origine grecque.
Grecs, dans l'histoire.
Oui.
Qui, donc, vont écrire un livre sur la logique. Et ils vont utiliser, donc, justement, un personnage célèbre qui est... Professeur Russell.
Kurt,
de son prénom.
Non, c'est pas Kurt.
Ah bon ?
Non. C'est pas Kurt
Russell.
Non,
c'est pas Kurt
Russell. Ah, d'accord, j'ai cru que t'avais cru ma blague de balle. C'est pas Henri ? Bernard. C'est Bernard Russell.
Si tu le dis,
ouais, il appelle Bernie dedans. Donc, nous allons suivre l'histoire de... Il nous raconte l'histoire de cet homme comme point de départ, qui, en gros, pendant une manifestation... Contre la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il est un pacifiste reconnu, va expliquer aux gens pourquoi cette Deuxième Guerre mondiale est importante, tout en racontant sa vie et sa recherche
De la logique.
Des fondements de la logique. Donc, mise en abîme de mise en abîme. Ça pourrait paraître assez abscon, un peu complexe, mais c'est très bien expliqué. Le dessin est très clair, on est dans une ligne très claire au niveau du dessin.
Qui fait beaucoup penser à du Scott McCloud.
Ouais, pour le côté didactique.
Un côté voilà. Très, très didactique. Et surtout, il y a des passages où il se balade dans Athènes.
Oui.
Et là, voilà, où tu as le personnage qui est plus dans le bon rapport, qui est plus proportionné par rapport au dessin, ou par rapport à la ville. Mais là, on est vraiment...
Du paradoxe aussi, parce qu'ils aiment bien. Non, il y a des trucs très, très bien menés sur la narration, plein de bourrés de bonnes idées. Donc, un dessin très sympathique, des couleurs qui sont très, très bien, toujours dans ce côté ligne claire, avec des aplats très nets, des choix de couleurs très sympathiques. Et on suit une histoire qui, en fait, c'est ce que les auteurs disent eux-mêmes dedans. On ne veut pas raconter comment fonctionne la logique, on veut raconter une histoire avec des héros, des personnages. Et ils expliquent même pourquoi est-ce qu'ils vont mettre telle chose en avant alors que c'est pas forcément exactement ça qui est vrai. Parce que, bien sûr, ils romancent un petit peu pour... permettre d'avoir une histoire qui prenne un peu, qui tienne un peu en haleine. Et on rencontre des stars des mathématiques, je veux dire. Enfin, je pense que les mathématiciens doivent tous faire « Waouh, mais c'est machin, j'ai étudié son théorème, machin
!» Oui. Wittgenstein, je crois que je l'ai étudié, son théorème.
Wittgenstein, alors oui, des personnages aussi assez hallucinants, comme Wittgenstein, qui est un peu un malade de la tête.
Oui, parce qu'il y a quand même un énorme rapport pour eux aussi entre la logique et la folie.
Devient-on fou parce qu'on étudie la logique ou devient-on logique parce qu'on est fou? C'est très intéressant là-dessus aussi.
On a Boulle, voilà, bon. On a Poincaré, on a Cantor. Je crois qu'ils ont fait... Enfin bon, là, je les connais pas tous. Hein.
Oui, non.
Voilà, je pense qu'il faut être... C'est assez pointu pour
ça. À part Turing, mais c'est grâce à Blade Runner.
Leibniz.
Mmh. Oui, Leibniz, oui. Voilà, même Russell,
Bertrand, en fait.
Bertrand, voilà, pas Bernard. Eh, j'étais pas loin, hein.
Mais bon, vous pouvez vous amuser à discuter ensuite, après l'avoir lu, du paradoxe de Russell, ou de la théorie des ensembles, là,
voilà. Donc,
pour des heures de jeu.
Oui, des heures de jeu, enfin c'est très bien foutu. Ça peut faire un peu peur comme ça, surtout que c'est un beau pavé quand même, hein. Mais c'est vraiment quelque chose de très sympathique à lire, très bien écrit.
Un ovni.
Effectivement, il y a des moments où on va relire un passage plusieurs fois pour bien comprendre ce que ça raconte. Ça m'est arrivé, c'est arrivé aussi, j'imagine.
Il y a des moments où le discours est quand même complexe. Hein.
Voilà, mais sans pour autant être complètement paumé. C'est-à-dire que moi, j'ai pas fait de maths depuis bien 10 ans et j'étais pas.
Les maths en elles-mêmes sont pas nécessaires.
Oui, c'est comprendre les paradoxes, les syllogismes,
Mais ils sont bien expliqués. C'est vraiment très 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 didactique.
Très 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 didactique, et on rencontre plein de grands noms des mathématiques et de la logique, et c'est sympa. Voilà, c'était Logique Comics, ça coûte 22,50€, c'est chez Vuibert, et ça vaut, c'est un des meilleurs trucs que j'ai lu là ces derniers temps.
Pour presque 350 pages, on est dans un bon rapport quantité-prix, et dans un très très bon rapport qualité-prix. Ouais, Parce que ça vaut un bon roman.
Oui, c'est... Ça vaut un bon roman. D'ailleurs, ça m'a presque tenté de lire les romans qu'ils ont écrits, les auteurs.
Puis même, du coup, ça vous donne aussi là, un petit peu envie après, parce qu'à la fin, vous avez une sorte de petit précis, on va dire, de tout ce qui est la logique, tous les concepts.
L'histoire des auteurs. Il passe sur un petit dictionnaire pour sortir de tout le côté un petit peu romancé, pour nous expliquer voilà ce qu'il en est en vrai.
Et donc, à la fin, vous avez une petite bibliographie qui est intéressante. Du coup, voilà, si vous avez envie d'aller plus loin... On vous encourage avec des livres qui sont beaucoup plus
costauds. Oui, enfin quand il nous parle en référence de lisez le livre de Wittgenstein, je t'avoue que non, là celui-là je pense que.
Comment ça, tu veux pas dire lire le Tractatus Logico-Philosophicus de Paris en 93 chez Gallimard?
Non, ça ne me tente pas trop. Pourtant ça a l'air très intéressant, hein, mais j'ai peur de me vriller le cerveau une bonne dizaine de fois.
Si t'as eu de la chance, ils ont été en plus réédités en français ou traduits, mais il y en a certains.
Oui.
Je crois qu'il fallait lire en allemand pour d'autres.
Oh, trop cool. On en a fini avec la BD.
Yes.
On va faire un autre petit hors-sujet.
Totalement hors-sujet.
On va parler de Castle.
Castle. Alors, pourquoi parler de ça?
Alors,
association d'idées. Hier soir, à la télé, il y avait donc un épisode de
Castle.
Et épisode d'Halloween, et là... Le personnage principal, Nathan
Fillion,
cherche un déguisement. Et il sort avec une sorte de déguisement, avec un pantalon un peu beige, des bottes en cuir, des bretelles, une chemise et un grand par-dessus en cuir.
Marron.
Marron. Et là, il nous fait penser à un certain Malcolm Reynolds, alias Mal.
Personnage principal de Firefly, qu'il interprétait, effectivement, et qui a été adapté en BD, derrière.
Voilà, et là, lui, mais en quoi
on a réussi à trouver un lien avec la BD, mais alors du néant. Hein, du néant. Ou...
Ah, mais un cow-boy de l'espace. Bon, là, lui dit, ouais, mais les cow-boys de l'espace, ça n'existe pas. Bon, lui dit qu'il adorait le costume, mais enfin, bon. Et voilà, on s'est dit, il faut parler de Castle, parce que c'est une bonne série.
Premièrement, mettons-la dans le contexte. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça se passe sur France 2 en ce moment. D'ailleurs, c'est la seule série américaine de France 2 en ce moment. Et en gros... On est dans la coutume de ces séries avec le consultant de la police insupportable, avec la jolie jeune fille policière
Beckett.
Qui a un truc secret de son passé ou je sais pas quoi, les quelques personnages secondaires qui associent dans l'enquête et qui n'ont pas trop de personnalité. Et ensuite,
ils sont juste comiques.
Voilà. Sur le même modèle, nous avons en très réussi Dr. House, qui, je le rappelle, est une série policière dans le milieu médical. Ah oui.
Ouais, enfin, c'est le consultant moi, qui me dérange. Je ne vois pas.
Ça... Ah, il est consultant pour la chef de l'hôpital. Il fait ce qu'il veut et quand il veut et il énerve. C'est le même modèle. C'est le modèle du personnage pénible.
Un peu les cheveux, là. Non,
c'est le modèle du personnage pénible. Anglais en général quand ils peuvent. Là, ils n'ont pas pris un anglais avec Nathan Fillion. Mais étrangement, dans The Mentalist et Lie to Me, qui sont d'autres séries qui suivent ce modèle-là, vaguement, ce sont des Anglais. Ouais, secteur principal.
Donc là, déjà, a priori. Je crois qu'ils sont 10 millions, ils sont quasiment 10 à avoir mis ta tête à prix.
Oui.
Parce que dans Lie to Me, il est irlandais.
Effectivement.
Et enfin, là, bon... si tu lui dis qu'il est anglais, je pense que tu peux avoir une révolution sur les bras.
Il est anglo-saxon, britannique.
Il est malheureusement citoyen britannique.
Voilà. En gros, pour dire que c'est un peu le coup, c'est très à la mode. Personnage insupportable. Bon, moi, dans ce mentaliste, je n'ai pas accroché, je trouvais que... Enfin, j'ai pas accroché.
Non, attends, je parle de Castle.
Voilà, Lie to Me, un peu mieux. Et Castle avait un intérêt majeur par rapport à toutes ces séries. Premièrement, ça ne se prend pas la tête. C'est une série qui ne se prend pas au sérieux, qui essaye de faire des scénars sympathiques, assez tordus, comme il faut. Et surtout, on a dans ce personnage de Castle, selon moi, le spectateur dans l'épisode. C'est le mec qui va dire... Normalement, c'est lui le coupable parce que c'est ce qui ferait l'histoire la plus sympa.
C'est ça.
Et bizarrement, quand on regarde un épisode des experts ou de toute autre série policière et qu'on a ce genre de raisonnement en se disant c'est lui le coupable parce que ça sera l'histoire la plus sympa, eh ben on a raison. Là, bah non, parce qu'on peut pas donner raison au héros tout le temps, ce serait trop facile. On a un héros qui se plante souvent, qui a des raisonnements tordus, qui marchent des fois mais pas tout le temps. La flic est très compétente et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on nous explique pas mal de techniques d'interrogatoire aussi. De façon bien foutue. Et on a voilà, cette logique des séries qui est un peu détournée, en fin de compte. En théorie, quelque chose qui se passe dans un épisode d'une série policière a toujours une importance dans la résolution de l'enquête, quel que soit l'événement. Si on apprend le nom et le prénom d'un personnage secondaire, c'est qu'il est important dans la résolution de l'enquête. Oui, c'est comme ça.
Le livreur a un prénom.
Ah, le livreur a quelque chose de louche.
Il a quelque chose de louche, lui.
Il a
soit
un prénom.
Soit il va mourir, soit il sait quelque chose.
Voilà. Là, ils vont un peu à l'encontre de tout ça. Tout en rajoutant le côté « je me prends pas la tête » des seconds rôles comiques que sont la famille du héros, qui est un écrivain.
Même le héros lui-même.
Oui,
parce que le héros lui-même. Je ne connais pas Nathan Fillion, enfin, moi je le trouve excellent.
Voilà, oui, je trouve que c'est un acteur... Et il cabotine pas trop, en fait.
Non.
Voilà, ce que je disais, je trouve que bah, l'acteur qui joue The Mentalist cabotine à donf. Tu vois ce que je veux dire ? Il fait « je regardais, j'envoie des pics, je suis drôle ». Et Nathan Fillion, moins, il le fait un peu, mais on sent plus qu'en fait, il est comme ça dans la vraie vie, c'est l'impression qu'il donne. Bref, une série policière bien construite, et surtout, ce qui m'a surpris, des méchants intelligents. Souvent, le scénar paraît tordu, puis quand on se met du côté du méchant, on se dit « waouh, il a pensé à ça, qu'est-ce qu'il est balèze ». C'est pas, bah, pour reprendre le truc des experts, c'est pas, on a plein d'indices qui nous permettent de trouver un coupable, on le met sur la chaise, on dit « c'est vous ?» Il fait « oui, j'avoue, c'est moi !» Non, là, le mec, il se met en face, il fait « non, 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 ce n'est pas moi, j'ai telles circonstances qui peuvent dire que ce n'est pas moi. » Et il faut vraiment qu'ils assurent à lui mettre la pression à l'interrogatoire ou à choper les infos qui vont amener jusqu'à le faire affirmer sa culpabilité. Et puis parfois, on croit que c'est le coupable, mais ce n'est pas le coupable parce que c'est beaucoup plus fin et subtil que ça. Du moins... C'est ce que j'ai vu dans la première saison. La saison 2, j'espère qu'elle continue à avoir un niveau aussi intéressant, qu'elle met autant ce rapport de l'écrivain par rapport au scénario en avant. Bref, voilà, c'est bien. Puis ne serait-ce que pour Nathan Fillion, que perso, j'adore, que vous pourrez aussi apprécier dans le fantastique Dr. Horrible Singalong Blog, qui est un truc débile fait par Joss Whedon avec plein de potes à lui, qui est très bien. Voilà.
Ou alors dans Firefly.
Firefly. C'est ou bien une... alors dans... Attention, alors là, rivière. Dans Buffy. Oui, il joue dans Buffy. Dernière saison, je crois qu'il apparaît
le
à la fin.
Le pauvre homme.
Et oui.
Il fallait bien qu'il mange.
Ben, il fallait bien qu'il commence avec Joss Whedon avant de faire Firefly.
Ouais. Non, mais enfin, Firefly aussi, qui est une excellente série. On vous conseille fortement.
Demain. Plus que Castle, même. Mais bon, Castle, si vous avez l'occasion de regarder, franchement, dans la flopée de séries du même type, je trouve qu'elle sort un peu du lot. Mm. Et que France 2 a eu vraiment du flair, surtout qu'en fait, ils l'ont acheté à TF1 qui n'en voulait pas.
Yes !
TF1, là, ils se sont fait, mais pouf. Là, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils se sont fait
enfler. Mais sauf que, non, mais attends, il fallait qu'ils achètent la saison 28 des Experts Las Vegas, celle la 15 de Manhattan et la 12 de Miami. Donc.
Oui.
Et puis, il fallait aussi changer le stock de lunettes de David Caruso.
Ça coûte cher.
Ça coûte cher.
Et surtout qu'il laisse des traces des doigts des deux côtés quand il émet. Donc, voilà. C'est la fin de cette émission. Nous vous souhaitons une bonne rentrée, car pour nous, c'est le cas. Et projette-toi dans le futur. Au moment, où cette émission sera diffusée, nous travaillerons. Nous ne serons plus en vacances.
Elle sera diffusée quand ?
Dans un mois.
Ah ben oui. Ouais. Là, il n'y a pas de doute, je serai à l'école.
Voilà. Non, pas dans un mois, dans 15 jours, pardon. Oui, c'est ça.
Mais je serai quand même à l'école.
Oui, tu seras quand même à l'école.
Je vais passer toute ma vie à l'école.
Merci de nous écouter. Comme d'habitude, facebook.com/1AIClub, twitter.com/1AIPied, iTunes, le blog blog.jeudepied.org. Vous pouvez nous laisser des commentaires. Nous vous remercions jusqu'ici.
N'hésitez pas à en laisser. Hein. C'est pas parce qu'on s'est un petit peu... Enfin, on s'est pas moqué, vraiment, parce que ça nous a fait beaucoup rire. Et, oui. Et en même temps, voilà, on s'est senti... touché par...
Bah, disons que oui, être rajeuni ainsi avec cet humour pré-ado, moi j'aime beaucoup, ça me plaît, et on va continuer à faire des blagues de balles, prout.
ouais, non, ça l'était pas vrai.
Non, je sais, c'était volontaire.
Et bien, dans 15 jours.
Ciao, ciao.
Ciao.